Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, bonjour, comment allez-vous bien? J'espère que vous allez bien. C'est l'été, il fait chaud, et donc que ce qui se passe dans ce climat, eh bien, soit l'expression de cette chaleur, de ce feu de l'amour de Dieu qui brûle notre cœur jour et nuit. Nous allons parler aujourd'hui du don de conseil. Nous sommes un peu dans cette série de catéchèses sur les dons du Saint-Esprit. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie, Mère du bon conseil. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il y a un magnifique passage dans l'Évangile que je voudrais vous lire. Un passage clé pour chacun de nous. Jésus ressuscité se manifeste de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Il vient chercher dans le cœur de son Simon-Pierre bien-aimé ces trois « je t'aime » à la place des trois « je ne connais pas cet homme ». Et puis, après ce moment tout à fait particulier, très très fort, non seulement pour Pierre, mais ceux qui étaient là, Jésus continue et dit à Pierre « paix mes brebis ». En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait, en parlant ainsi, le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Se retournant, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi !» Le bruit se répandit alors chez les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre, il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Alors, on voit là le passage clé dans notre vie de « on suit Jésus » parce que nous sommes attirés par lui. On comprend que son amour nous attire, son amour nous appelle. Et c'est tellement fort qu'on est même prêt à tout lâcher pour le suivre. Et on y met toute notre générosité, tout notre bon vouloir. Et de fait, ce sont des moments très importants, des étapes très importantes. Cette espèce de générosité du jeune, de celui qui est jeune, et qui se dit « moi, je grille ma vie pour Jésus ». Peu importe mon métier, peu importe ma situation professionnelle, passée, présente et future, moi, ce qui est plus fort, c'est toi, Jésus. Bien sûr, cette générosité à répondre à l'appel de Dieu, à son amour, est forcément un peu mélangée. Ça vient de Dieu, c'est sûr. Et puis la réponse est très très belle, mais forcément un peu mélangée. Comme Marie-Madeleine devra être purifiée dans son amour de Jésus, pour Jésus, bien sûr. Pierre aussi. Et ce qui va venir faire la grande purification, le grand basculement dans la vie de Pierre, dans la vie des disciples, dans la vie de Marie-Madeleine, dans la nôtre, c'est qu'on va pouvoir se mettre à la suite de Jésus et l'aimer. Non pas appuyé sur notre propre volonté, notre propre amour, notre propre attachement pour Jésus. Mais ce n'est pas vous qui m'avez aimé, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Le jour où nous vivons notre vie à la suite de Jésus appuyé sur son appel, sur son choix à lui, sur sa volonté à lui, alors là, on entre dans quelque chose de nouveau. Suis-moi. Et avec cette honnêteté, j'allais dire, le mot est peut-être mal choisi, mais Jésus a été clair. Vous aurez des persécutions, il a été clair. Celui qui ne renonce pas à lui-même, eh bien, il n'est pas digne d'être mon disciple. Il y a une radicalité évangélique. La vie évangélique est radicale. Parce que cela demande non seulement l'appel de Dieu, le choix de Dieu, mais un choix déterminé, une réponse déterminée. Pas d'errance, pas oui j'aimerais bien, mais je suis pas sûr d'aimer bien, et puis ça dépend de tellement de choses que je verrai, et puis je vais enterrer mon père, et puis j'ai mon champ à labourer, et puis tu sais, il faut que je surveille le CAC 40, il faut que je surveille tellement de trucs, j'ai tellement de trucs sur le lait, sur le feu, j'ai tellement de lait sur le feu, j'ai tellement de dossiers en cours, je vais finir mes dossiers et puis j'arrive. Ça c'est aller vers Jésus à partir de soi, en ayant bien compris qu'il y a une attraction dans le cœur. C'est un peu le jeune homme riche, qui est juif, et qui dit, Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements, tu les as pratiqués, tu connais, c'est bien, mais va jusqu'au bout. Ah, il avait de grands biens, alors il s'en alla tout triste, parce que de fait, suivre Jésus, ça demande un cœur de pauvre, une immense pauvreté de cœur. Car le Seigneur Jésus nous emmène sur des chemins qui nous sont inconnus, des chemins nouveaux, qui ne sont pas nos chemins. Nos chemins, c'est trop court. C'est sympa, si vous voulez. Parce que ça vient de nous, alors c'est toujours sympa, à notre mesure. Et comme on fait les choses qu'on aime bien, et alors, ben c'est sympa, vous voyez. Sauf que suivre Jésus, c'est tout autre chose. C'est quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. C'est normal. Ça fait même partie de l'éducation, j'allais dire. Fortifier la volonté, la détermination, éduquer le désir, bien repérer, discerner ce qui est important pour nous, gouverner notre vie, ça s'appelle la vertu de prudence. Une vertu humaine capitale qui est le gouvernail de notre vie, parce que lorsque nous repérons ce qui est important pour nous, nous avons la capacité de nous rendre, de vivre selon ce qu'on appelle la finalité, ce qu'on a repéré comme une finalité, c'est-à-dire quelque chose qui est plus important, le plus important. Et cela va éduquer nos choix. Est-ce que je dois renoncer à un travail pour suivre mon futur mari, mon époux, mon conjoint? Est-ce que je dois renoncer à ma carrière? Qu'est-ce qui est le plus important? Ta carrière? Ton couple? Oui? Qu'est-ce qui finalement finalise ta vie? Et selon ce que tu auras repéré comme ce qui te finalise, tu vas choisir. Et tu vas mettre les moyens, tu vas ordonner les moyens qui sont à ta disposition, l'argent, le temps, l'énergie, tout, tout, tout. Tout va s'ordonner autour d'un choix éminemment personnel que tu vas poser en fonction de ce que tu auras discerné comme quelque chose à faire, un bien à accomplir. Et ce bien à accomplir, à faire, eh bien, tu auras peut-être même pris conseil auprès des anciens, auprès de ceux et celles qui ont un peu d'expérience. Et puis, viendra le moment. Ok, je pose ce choix. Et ce choix va déterminer plein de choses. Ça va affermir ton chemin dans une certaine direction, dans un certain sens. Et ça va venir te faire renoncer à d'autres choses et élaguer des choses. Tu vas renoncer à des choses parce que tu as choisi quelque chose de particulier. Voilà, tu as choisi Germaine. Eh bien, au revoir toutes les Gertrudes et les Micheline et tout le voilà. Hein? Tu veux te marier avec Germaine? Eh bien, il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y a pas d'autre. Voilà. Donc, vous voyez que la vertu déjà de prudence dans notre vie, qui est notre vertu de gouvernement, qui est très importante, eh bien, le don de conseil va être ce don du Saint-Esprit qui va venir nous mettre dans une dimension toujours de gouvernement, mais sauf que ce n'est plus moi qui vais décider de ce qui est important pour moi en fonction d'éléments simplement humains qui sont bien, qui sont intelligents, qui sont... Mais voilà que ça va être l'Esprit Saint lui-même qui va souffler. Rappelons-nous, les dons du Saint-Esprit sont des inspirations, sont des motions, sont des... Ça pulse, ça souffle. Mais bien sûr, quand l'Esprit Saint souffle dans le don de conseil, il va nous orienter, nous conseiller pour des choses qui sont immédiatement de l'ordre de la volonté de Dieu. Et donc, pour que cette volonté de Dieu, cette volonté divine s'empare de notre vie, s'accomplisse dans notre vie, avec notre consentement, avec notre choix. Attention, nous ne sommes pas des marionnettes. Lorsque nous hissons la voile et que le vent souffle, eh bien, nous sommes toujours dans la barque. Et nous avons un petit gouvernail. Nous avons toujours notre choix personnel. Mais nous pouvons mener notre vie selon notre bon plaisir, notre bon vouloir. Ou bien, quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. C'est l'expérience de tous ceux et celles qui vieillissent. Quelle épreuve! Quelle épreuve que la vieillesse! Parce que voilà que nous devons, en tout cas nous sommes fortement invités à choisir cette dépendance à l'égard des autres. Et à travers les autres, il y a le choix de dépendre du bon vouloir de Dieu. C'est un dépouillement extraordinaire qui ne peut se faire, j'allais dire, que d'une manière surnaturelle. Parce que naturellement, on a envie jusqu'au dernier souffle. On a envie de mener sa vie. Hein. Et voilà que le Seigneur va venir chercher ça en nous. La chose la plus difficile à donner à Dieu, c'est notre volonté humaine. Parce que nous sommes... La volonté humaine est tellement... organisatrice, faiseuse de vie selon notre bon vouloir. On a la vie qu'on veut. Oui, on a la vie qu'on veut. Et même au cœur des épreuves, on peut choisir de se laisser s'effondrer. On peut choisir de ne pas se relever. On peut choisir d'abandonner. On peut choisir de ne pas, oui, d'abandonner la lutte, le combat. C'est un choix. On a la vie qu'on veut. Ou on peut choisir de s'emparer de l'Esprit Saint. Nous verrons dans la prochaine catéchèse le don de force. Mais avant le don de force, il faut bien parler du don de conseil. Le don de conseil est donc ce souffle divin qui vient dans mon cœur. Rappelons-nous que tous les dons du Saint-Esprit sont des dons d'amour qui nous mettent immédiatement et tout le temps et sans cesse tout le temps dans le mystère de la charité. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne quitte pas l'amour. On parle des dons, mais on est à l'intérieur de l'amour de Dieu, de l'amour de notre frère. Il y a donc dans ce don de conseil, dans ce souffle divin, comme dit le psaume lui-même, le psaume 16, magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. C'est le psaume 15, 16, ça dépend comment on compte, mais magnifique. Le Seigneur s'est fait mon conseil, parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est pour nous. Il est tellement pour nous, il nous dit, tu sais, moi, ce qui est bien pour toi, c'est que tu vives, c'est que ma volonté s'accomplisse dans ta vie. Ça, c'est le top pour toi. Alors, bien sûr, la première disposition, frères et sœurs, et c'est pour ça que le don de conseil aura comme fruit, si vous voulez, la béatitude des cœurs doux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre en héritage. Pourquoi? Parce que la docilité au Saint-Esprit, c'est le cœur même du Christ qu'il a d'abord, le cœur de Marie. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. La douceur et l'humilité, la douceur du cœur, cette docilité, cette capacité à se laisser conseiller, à se laisser transformer, à laisser la volonté de Dieu s'accomplir en nous et à travers nous, ça marque la terre, ça marque l'humus. Humilité, humus, nos pieds, nos mains, nos yeux, toute notre corporéité, notre vie, notre personne, elle est faite pour marquer la terre des intentions de Dieu. La terre est le marchepied du trône de Dieu. Le Dieu a foulé cette terre. Eh oui. La deuxième personne de la Sainte Trinité a marché sur cette terre, a parlé, a vécu, a mangé, a bu, a prié, a jeûné. Pourquoi? C'est pour nous montrer que cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien Jésus accomplit sans cesse cette réalité. Marie accomplit sans cesse cette réalité. Et nous, ben oui, nous aussi, nous sommes invités à entrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Alors c'est facile, si vous voulez, de dire, s'il te plaît, est-ce que ta volonté s'accomplisse en Chine? Hein? C'est bien ça. La Chine, la Mongolie. Ah ouais, s'il te plaît, là, ta volonté, hein, en Mongolie, très, très, très important. Ouais. En Ukraine, bon. En France aussi, bon, là, on est un peu plus touché quand même. Hein, ça se rapproche. Dans ma famille, oui, ça c'est sûr, dans ma famille. Et puis en moi. Et puis, ah oui, en toi. Alors, moi, je vais te dire, en toi, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, il faut que tu renonces à la tienne. Ah ben là, je suis pas d'accord. Moi, j'ai pas envie. Ah ben là, forcément, il y a un combat, comme on dit. Et il y a une lutte. Et oui, il y a une lutte à mort, frères et sœurs, entre la volonté de Dieu et la nôtre. Faut le savoir, faut le repérer. Parce que quand tu étais jeune, tu menais ta vie Et c'était même, j'allais dire, dans le dessein de Dieu, pédagogiquement bien. C'était bien. C'était bien que tu comprennes les différentes facultés que tu as, ce que c'est qu'une vie humaine, une personne humaine, le choix, tout ça. C'était très bien. L'éducation d'un enfant, l'éducation de son désir, qu'il a l'éducation de l'aider jusqu'au bout, de ses choix, tout ça, c'est très important. Et tout cela dispose d'une manière très belle cette capacité que nous avons à choisir librement, avec amour, que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplisse. Alors oui, il y a un vieux prêtre qui est décédé maintenant et qui disait qu'il y avait deux âges d'or du Saint-Esprit. La toute petite enfance, parce que là, le petit bébé, il est tout malléable, ses parents font ce qu'ils veulent de lui. Et là, il dit oui à tout, si vous voulez. Il ne peut pas se battre, hein. Donc c'est donc un âge d'or, c'est quelque chose qui se passe dans la vie humaine qui illustre une réalité profonde, spirituelle, que nous avons à vivre avec Dieu, se laisser faire totalement comme un bébé. Et puis il disait, ben, le deuxième âge d'or du Saint-Esprit, c'est la vieillesse. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, moi, la vieillesse, vous voyez. Au début, je me disais, oh là là, tout part en vrille. Ah, ça fuit de partout. Et voilà, c'est ce que dit Saint Paul. Seigneur, ce corps que j'ai part complètement en vrille. Voilà, il le dit autrement. Mais on voit très peu la vieillesse, par exemple, comme un âge d'or du Saint-Esprit. Pourquoi c'est un âge d'or du Saint-Esprit? Parce que justement, comme un tout petit, tu te laisseras ceindre par quelqu'un. Tu ne t'aurais jamais imaginé de te laisser faire comme ça, parce que c'est tellement difficile. C'est tellement pas naturel de dépendre de Dieu. On veut bien, à la limite, mais dépendre de Dieu qui passe à travers quelqu'un qui vient changer notre couche, qui vient faire notre toilette, qui vient s'occuper de nous parce qu'on ne peut plus faire grand-chose. Eh bien, c'est un chemin d'humilité qui passe à travers un très grand dépouillement. Il nous faut donc, frères et sœurs, apprendre non pas tant à dompter notre nature qu'à laisser notre nature se laisser investir par la surnature. C'est-à-dire que Dieu, quand il donne sa grâce, il ne vient pas nous brimer. L'amour de Dieu n'est pas rival de l'amour humain. L'amour de Dieu vient assumer toute notre nature et il vient nous faire nous élever. Bien sûr, il n'y a pas pour nous qui sommes conçus pécheurs dans le sein de notre mère, il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de sainteté sans purification, ça n'existe pas. Nous sommes forcément purifiés. Au ciel, il n'y a que de l'or. Entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? L'or purifié au feu. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de conséquences. Tout est pur, tout est dans l'éclat de la lumière de l'amour de Dieu. Créateur, rédempteur, sanctificateur. La cité sainte, tout est saint. Alors pour nous, c'est impossible. Et par contre, nous pouvons accepter et nous pouvons choisir de laisser la volonté de Dieu s'accomplir pleinement dans notre vie. Nous voilà le don de conseil qui va nous subodorer à l'oreille du cœur. Est-ce que tu veux bien te laisser faire? Est-ce que tu veux bien être doux, docile? Et du coup, tu verras, tu seras humble. Mais si tu résistes, ah ben, c'est l'orgueil qui résiste. L'orgueilleux résiste. Le Seigneur s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce, dit l'Écriture. C'est-à-dire qu'il y a un combat entre Dieu qui est l'humilité même, et nous qui avons Un peu d'orgueil. Il y a donc de la résistance. L'orgueil de l'intelligence et de la volonté que le Seigneur veut briser avec la douceur de son amour, avec sa volonté divine. Alors pour terminer, je voudrais lire avec vous un petit passage de ce que Jésus enseigne à Luisa Picaretta dans le livre 12 du livre du ciel. C'est quelque chose de très important. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, mais c'est toujours bon de le réentendre. Parce que c'est un chemin, c'est une école. Alors, Jésus vient et dit à Louisa, ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais, je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais, je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais, je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait, de telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Les offenses qu'on me faisait n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toutes choses. Et là, Jésus va faire une distinction très importante entre vivre résigné à la volonté divine et vivre dans la divine volonté. Alors, écoutons bien. Vivre résigné à la divine volonté, c'est se résigner en tout à la volonté de Dieu, autant dans la prospérité que dans l'adversité, voyant en toute chose le règne de Dieu sur sa création, suivant lequel pas même un cheveu ne peut tomber de notre tête sans la permission du Créateur. L'âme se comporte comme un bon fils qui va où son père veut qu'il aille, et qui souffre ce que son père veut qu'il souffre. Être riche ou pauvre lui est indifférent. Il est content de ne faire que ce que veut son père. S'il reçoit l'ordre d'aller quelque part pour s'occuper d'une affaire, il y va simplement parce que son père le veut. Cependant, écoutez bien, c'est bien trouvé, je trouve. Jésus, il cause bien, je trouve. Cependant, ce faisant, il se rafraîchit, s'apprête pour se reposer, s'arrête, pardon, s'arrête pour se reposer, manger, échanger avec d'autres personnes, etc. Ainsi, il se sert beaucoup de sa propre volonté. Sans oublier cependant qu'il va là parce que c'est ainsi que son père le veut. En beaucoup de choses, il trouve l'occasion de faire sa propre volonté. Ainsi, il peut être des jours et des mois loin de son père sans que la volonté de son père lui soit spécifiée en toute chose. Ainsi, pour celui qui ne vit que résigné à la divine volonté, il est presque impossible qu'il ne fasse pas intervenir sa propre volonté. Il est un bon fils, mais il ne partage pas en tout les pensées, les paroles et la vie de son Père céleste. Pendant qu'il va, revient et parle à d'autres personnes, son amour est intermittent. Sa volonté n'est pas en communication continuelle avec celle du Père, et ainsi il entretient l'habitude de faire sa propre volonté. Néanmoins, je crois que c'est là le premier pas vers la sainteté. Vivre, non plus résigné, mais dans la divine volonté, écoutons bien, signifie ne rien faire par soi-même, parce que dans la divine volonté, l'âme se sent incapable de quoi que ce soit par elle-même. Elle ne demande aucun ordre, et n'en reçoit pas, parce qu'elle se sent incapable d'aller seule. Elle dit, si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble comme une seule personne. Si tu veux que j'aille quelque part, allons-y ensemble comme une seule personne. Ainsi, l'âme fait tout ce que le Père fait. Si le Père pense, elle fait sienne ses pensées. Elle n'a aucune autre pensée que les siennes. Si le Père regarde, parle, travaille, marche, souffre ou aime, elle regarde ce que le Père regarde, répète les paroles du Père, travaille avec les mains du Père, marche avec les pieds du Père, souffre les mêmes souffrances que le Père et aime ce qu'aime le Père. Elle ne vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du Père, et ainsi elle est une parfaite réplique de lui. Ce qui n'est pas le cas pour celui qui vit seulement résigné. Il est impossible de trouver cette âme sans le Père, ou le Père sans cette âme. Et cela n'est pas qu'extérieur, tout son intérieur est entrelacé avec l'intérieur du Père, transformé en lui. Oh, le vol rapide de cette âme! C'est Mach 33, Mach 3, moi je sais pas comment on appelle ça, les vitesses. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, il est impossible de faire quoi que ce soit par elle-même. Ses travaux humains, même saints, lui donnent la nausée parce que les choses de la divine volonté, même les plus petites, ont un aspect différent. Elle acquiert une noblesse divine, une splendeur divine et une sainteté divine, également une puissance divine et une beauté divine. Ses qualités divines se multiplient indéfiniment en elle et en un instant elle fait tout. Après avoir tout fait, elle dit, je n'ai rien fait, c'est Jésus qui a tout fait, et c'est là mon bonheur. Jésus m'a fait l'honneur de me recevoir dans sa volonté, ce qui me permet de faire ce qu'il a fait. C'est le tout est grâce, c'est le vous avez dépassé mon attente de la petite Thérèse. L'ennemi est incapable de troubler cette âme. Qu'elle ait fait son travail bien ou pauvrement, qu'elle ait fait peu ou beaucoup, parce que tout a été fait par Jésus et elle ensemble. Elle est paisible, non sujette à l'anxiété. Ah. Elle n'aime pas une personne en particulier, mais elle les aime toutes divinement. On peut dire qu'elle répète la vie de Jésus, qu'elle est sa voix, les battements de son cœur, la mère de ses grâces. En cela seulement, je crois, consiste la vraie sainteté. L'âme qui vit dans la divine volonté est le sourire de Jésus. Elle est détachée de tous, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air saint, S-A-I-N, qu'elle dégage embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées, ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Comment ne pas penser à la Vierge Marie, chers amis auditeurs, en écoutant ce que Luisa Picaretta nous dit dans ce livre 12, je n'ai pas la date là, cette différence entre vivre résigné à la divine volonté et vivre dans la divine volonté. Et vraiment, le don de la grâce est nécessaire. Les dons du Saint-Esprit sont nécessaires, et en particulier ce don de conseil, pour que même dans l'activité de notre charité fraternelle, même dans notre travail, on l'a compris, dans nos activités de tous les jours, la divine volonté ne vient pas nous faire planer. Pas du tout. Pas du tout. La divine volonté, la volonté de Dieu qui s'accomplit en nous, au contraire, elle vient marquer la terre. Elle descend. La volonté de Dieu, pourquoi est-ce qu'on l'a pris le prix dans le Notre Père, par exemple? Que ta volonté se fasse sur la terre, comme au ciel. La volonté de Dieu qui se fait au ciel sans cesse, eh bien Dieu veut que cette volonté divine s'accomplisse sur la terre. C'est ça qui est magnifique. C'est que nous avons une terre, nous avons un milieu, nous avons un espace, un espace-temps, nous avons un ici-bas qui est appelé à vivre en régime de Dieu. Frères et sœurs, c'était le dessein de Dieu pour Adam et Ève. C'est toujours le dessein de Dieu, accompli en Jésus, accompli en Marie, et qui doit s'accomplir en nous. Alors merci Seigneur de souffler sur nous ton don de conseil très très fort pour que nous puissions être doux et humbles de cœur comme Jésus, et puis être vraiment témoins que Jésus fait tout. Et que nous sommes si heureux qu'il passe à travers nous pour marquer la terre, continuer. L'Église, c'est le Christ répandu et communiqué. Le Christ continué, comme disait je ne sais plus qui. Le Seigneur veut continuer à marcher, à parler, à toucher, à guérir, à aimer, mais à travers nous. Et voilà qu'il veut s'emparer de nous pour cela. Et alors, est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu veux bien que la volonté de Dieu s'accomplisse pleinement en toi? Alors, Pierre, je te le dis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, je rajoute, comme le bon vin, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Il signifiait en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit, suis-moi. Amen. Alléluia. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.